Jersey jusqu'à 18h. Christophe Cessieux.
À 48 km de l'arrivée de cette 14e étape en direction de Risoul, nous sommes dans l'ascension du col d'Izoard. Et avant de faire un point sur la course, on va retrouver la moto RMC qui se trouve au contact des hommes de tête qui possèdent encore 2 minutes 54 d'avance. Georges Quirino.
Oui, ils étaient 15 devant, ils sont en train d'exploser en volant tous les cas. On est en train de perdre plusieurs unités. Cyril Gauthier de la formation Eurocar a été lâché il y a quelques instants. Et Christophe Riblon aussi, le vainqueur de l'Alpe d'Huez l'année dernière au cours de la formation AG2R La Mondiale, qui est en train de lâcher petit à petit. On voit Nicolas Aidé également, le Français de la Cofidis, dans les dernières positions de ce groupe. Il reste un Français bien placé, c'est Amaël Moinard de l'équipe PMC. Mais le rythme imprégné par les Sky, avec notamment Guérin Thomas le Gallois et Joaquim Rodriguez également, le maillot à poids, qui s'est positionné dans les premières positions. Et bien ce rythme là est en train de faire exploser le groupe à l'avant. Ils ne sont plus que 13 désormais, alors qu'il reste encore 4 km, 3 km même avant le sommet de l'Isoard.
Et pendant ce temps là à l'avant-garde du peloton, Fred, eh bien Vincenzo Nibali a l'air tranquille, mais alors tranquillou, hein.
Oui, un peu comme hier dans la montée vers Champs-Rousses lorsqu'il avait attaqué. Il ne montre que rarement des signes de faiblesse, Vincenzo Nibali, visage impassible, maillot jaune ouvert sur un maillot de corps qui bien pour l'instant ne bouge pas, parce que c'est vrai que le haut du corps de Vincenzo Nibali ne trahit aucune défaillance. Dans sa roue on aperçoit Arnold Janesson et Thibaut Pinot, le duo de l'équipe FDJ.fr, ce peloton qui est en train de perdre des éléments un à un. C'est vrai qu'on arrive dans les portions les plus dures du col d'Izoard jusqu'au final, et dans sa deuxième partie ce col d'Izoard avoisine les 8-10%. C'est une succession d'épingles à cheveux sous les sapins, célèbres sapins de l'Izoard, avant le décor lunaire de la casse déserte. Vincenzo Nibali qui maintient, en compagnie de ses coéquipiers de l'équipe Astana, un écart à 3 minutes derrière les hommes de tête. On est à 47 km 500 de l'arrivée.
Cyril, notre druide, a gravi à plusieurs reprises le col d'Izoard, et puis il l'a fait gravir également à ses coureurs lorsqu'il était directeur sportif. En quoi c'est un col mythique? Pourquoi c'est un col mythique, Cyril?
Eh bien, tout simplement parce que l'histoire du Tour de France s'est souvent écrite dans la montée de l'Izoard. Et l'un des premiers qui a écrit cette histoire, c'est tout simplement Louison Bobet. Et c'est dans l'Izoard qu'il a construit, bâti une de ses victoires sur le Tour de France. Et à partir de ce jour-là, je me souviens, quand j'étais jeune, dans les miroirs ou dans les buts, miroirs du cyclisme, il y avait une magnifique photo de Louison Bobet dans la casse déserte. On serait resté des heures à la regarder, tellement elle était puissante, forte, elle crée une émotion absolument extraordinaire. Et puis il passe aussi à 2300 mètres, on l'a dit tout à l'heure, et qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de défaillances dans cette ascension.
Des défaillances, il y en a actuellement dans le groupe de tête, Georges, sur la moto.
Ouais, où on perd de plus en plus d'unités. Ils étaient 13, ils ne sont désormais plus que 10. On vient de perdre il y a quelques instants Reintaramäe, le leader estonien de la formation Cofidis. Cofidis également avec Nicolas Aidé, qu'on dépasse à l'instant, le Français, la gueule, la bouche grande ouverte, en difficulté dans cette ascension de l'Izoard. Les derniers hectomètres, les derniers kilomètres, on a l'impression, Christophe, qu'à chaque lacé ça grimpe encore un peu plus. Nicolas Roche également, l'Irlandais de la formation Saxo, est lâché. Il a ouvert son maillot, il a mis ses lunettes sur son casque, les dents sorties entièrement, en difficulté également. Ils sont désormais 10 dans ce groupe de tête, où l'on voit toujours les mêmes coureurs à l'avant. Thomas Guérin Thomas le Gallois, où l'on voit José Serpa le Colombien de la Lamprée, et également Joaquim Rodriguez dans les bonnes positions. Il ne reste plus qu'un Français, c'est Amaël Moinard de la PMC. Et indication importante, Christophe, alors que l'on va bientôt basculer dans la descente, on a 2 km du sommet, il pleut sur le sommet de l'Izoard, les premières grosses gouttes commencent à tomber sur la tête de course.
Mais oui, effectivement, les premières gouttes de pluie, on annonçait des orages aujourd'hui. Pour l'instant c'est pas très 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 grave, et les gouttes sont encore petites, mais sait-on jamais, hein, dans les Alpes les orages arrivent rapidement. Fred,
Christophe, oui. Là, on voit depuis à peu près 2 km ce qui semblait à peu près, on va dire, normal, où tout le monde tournait à peu près correctement. Et depuis 2 km, eh bien, on voit des coureurs qui décrochent, y compris bien sûr dans le groupe de tête. C'est tout simplement qu'on est passé au-delà des 2000 mètres. Et au-delà des 2000 mètres, eh bien, vous avez l'oxygène qui commence à manquer énormément. Eh bien, les plus faibles, craque. Ouais. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y avait de nombreuses défaillances dans cet isoar.
Et c'est ce en sac, c'est la raison pour laquelle ces cols situés à plus de 2000 mètres, même s'ils ne sont pas très impressionnants en termes de pourcentage de pente, peuvent faire plus de dégâts que les cols situés plus bas.
Tout à fait, parce que à partir du moment où vous avez 20% d'oxygène en moins, si vous avez une pente à 6%, bien vous vous imaginez que si c'était au niveau de la mer, elle serait pratiquement à 10-12%, parce que vous manquez de puissance, vous perdez 20% de votre force. La même pente, vous la montez avec un développement de 39-21, alors que là, vous allez mettre 39-23, voire 39-25. Parce que vous perdez de la puissance puisque vous n'avez plus d'oxygène. C'est comme un moteur de voiture.
Et c'est la même chose. Le cyclisme, c'est de la voile, mais c'est également de la course automobile. Avec notre druide, 46 km 400 de l'arrivée, nouveau point sur la course. Fred.
Avec le Gallois Geraint Thomas qui emmène toujours dans sa roue le Vénézuélien Serpa de l'équipe Lampre. Nieve, son coéquipier de la Sky, est toujours dans ce groupe. On a 10 coureurs donc à l'avant, à moins de 4 km maintenant du col d'Izoard, à plus de 2300 mètres d'altitude. Nieve et Thomas pour la Sky, Jesús Herrada pour l'équipe Movistar, le porteur du maillot à pois de la formation Katusha, l'espagnol Joaquin Rodriguez. Attention à Rafael Majka, le Polonais qui a terminé deuxième de l'étape d'hier derrière Vincenzo Nibali. De Marchi, l'Italien, fait de la résistance. Il y a là un Hollandais de l'équipe Belkin, Kreuzweig, et puis toujours placé Amael Moinard, le seul Français qui fait de la résistance dans ce groupe de tête derrière le groupe maillot jaune, à l'avant duquel on trouve à nouveau des coureurs de l'équipe NetApp et non plus des coureurs de l'équipe Astana. Et désormais pointé à 3 minutes 15, les Astana qui sont au nombre de 4 en plus de Vincenzo Nibali, les NetApp, maillot bleu, noir et blanc sur le dos, qui roule pour le Tchèque Léopold Koenig, 10e du classement général ce matin et qui a terminé 3e de l'étape hier à Champs-Rousses. À mon avis, il a coché cette arrivée aujourd'hui à Risoul, arrivée inédite dans l'histoire du Tour de France.
Cyril, beaucoup de réactions sur le hashtag RMC Live, on a l'air de s'ennuyer. C'est le cas de Rémi qui nous dit les étapes de montagne sont de plus en plus ennuyantes, on va encore attendre les 5 derniers kilomètres pour voir un semblant d'action. Qu'as-tu à lui répondre ?
Ben écoutez, s'il s'ennuie, personnellement, moi je ne m'ennuie pas parce que je vois des choses peut-être que lui ne voit pas. Je vois l'intensité de la course actuellement. Et cette intensité, elle est absolument extraordinaire sur cette ascension. Mais c'est vrai que vu de l'extérieur, il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas de... Non, mais attendez, pour l'instant, il y a un rythme énorme qui est donné et on s'aperçoit même que ce sont les AG2R maintenant qui passent à l'offensive alors qu'on est à l'offensive, qui essayent de remettre du rythme en tête de peloton. Eh bien, ça va faire mal, la montée de l'Isoard va faire mal. Oui. Alors c'est vrai, ça se passera dans les 5 dernières minutes. Nous ne sommes pas en 1922, nous ne sommes plus en 1947.
Changement de physionomie à l'avant du groupe maillot jaune avec effectivement Romain Bardet, le maillot blanc, qui fait rouler Michael Schérel, son fidèle grégario en montagne, le meilleur jeune du Tour de France et troisième du classement général ce matin. Romain Bardet avait déclaré hier soir ce qui m'arrangerait aujourd'hui, ce qui m'arrangerait en l'occurrence demain dans cette étape vers Risoul, ce serait qu'il y ait la guerre dans l'île. Isoard, eh bien cette guerre, il est peut-être en train de la déclencher. On ne va pas utiliser le mot guerre aujourd'hui par décence, mais à l'approche du col d'Isoard, Romain Bardet tient parole. Il semble plus à l'aise aujourd'hui dans un col aussi rude que l'Isoard, plus à l'aise qu'hier vers Champs-Rousses. C'est peut-être un terrain qui lui convient davantage. Les montées de Champs-Rousses et Risoul, c'est peut-être un peu trop roulant pour ce coureur qui adore les classiques ardennaises, par exemple, que ce soit la Flèche, mais encore plus Liège-Bastogne-Liège. Il aime les ruptures de pente, il aime les pourcentages, il aime la course cycliste, simplement. Et dès qu'il s'agit de passer à l'action ou de mettre une stratégie en place, Romain Bardet se régale. Il vient de positionner toujours Michael Schérel à l'avant du groupe maillot jaune, le groupe maillot jaune qui est relégué à 3 minutes 10 de la tête de course. On est dans le final de l'Isoard.
Et à l'arrière du peloton, il y a de grosses victimes. C'est le cas par exemple de Thomas Vauclair qui cette année a bien du mal quand même. Il semble les années commencent à peser dans les jambes du leader de la formation Europe Car. Je ne sais pas si Pierre Roland nous demande où est Pierre Roland d'ailleurs. Est-ce qu'il est en tête de peloton, Fred? Est-ce que tu as pu l'apercevoir?
Il me semble qu'il est dans le groupe maillot jaune encore et toujours. On a vu Christopher Horner, le vétéran américain vainqueur de la Vuelta, qui a décroché en même temps que Thomas Vauclair et en même temps que Michal Kwiatkowski. Ne le blâmons pas. Certains en avaient fait un prétendant au classement général. Peut-être que lui savait sur quel registre jouer. Et ce registre, ce n'est lui qui n'a que 24 ans. Ce registre, pour lui, ce n'est peut-être pas encore la haute montagne. Lui qui a quasiment tout fait depuis le début de saison et même en fin de saison dernière. Lui qui avait terminé 11e du dernier Tour de France a peut-être oublié le classement général cette année. On est avec l'avant de la course et avec Georges sur la moto dans le final de l'Izoard. Ouvre grand les yeux, Georges.
Dans le dernier kilomètre, oui, effectivement, on a passé la banderole il y a quelques instants maintenant derrière les 10 hommes de tête. On est dans un paysage quasi lunaire ici au sommet de l'Izoard à 2360 mètres d'altitude. La route noire de monde, c'est une succession de lacets, 4, 5, 6, 7 lacets environ, où l'on peut voir cette foule de gens dans cette route qui serpente jusqu'au sommet. Une foule de gens pour accueillir les 10 hommes de tête. La pluie, arrêté désormais, mais le ciel est toujours voilé. Les hommes de tête qui sont en train de se scinder, puisque on voit notamment quatre coureurs qui sont partis pour repasser au sommet, pour faire les points certainement, avec Joaquim Rodriguez, le maillot à poids qui est là, avec Raphaël Majkin, avec également Serpa de la Lampré, et il me semble que c'est Rada également qui est dans les groupes de 4 qui va passer dans quelques instants au sommet de cette Izoard.
Et on oublie Serpa, le Vénézuélien de la Lampré. C'est bien Mikel Nieve, le basque de l'équipe Sky, qui complète ce quatuor. Il y a donc Joaquim Rodriguez qui passe en ce moment récolter les points de ce col hors catégorie qu'est l'Izoard. Deuxième, Rafał Majka, le polonais. Attention, il a l'air d'avoir la poignée, comme disent les coureurs. Il marche du tonnerre, Rafał Majka. Deuxième de l'étape hier derrière Vincenzo Nibali. Il est à l'avant de la course aujourd'hui et il a un coup de pédale qui trahit son excellente condition. Lui qui a terminé 6e du Tour d'Italie, passage au sommet donc. Rodriguez en 1 devant Majka, Nieve et Rada. Le reste des échappés est relégué à un peu plus de 10 secondes. Effectivement, il y a eu une accélération dans ce final de l'Izoard.
Voilà, alors qu'en tête de peloton maillot jaune, Romain Bardet a pris place en deuxième position, emmené par l'un de ses équipiers. Il le disait hier, il disait avoir beaucoup souffert de la chaleur. Cyril, aujourd'hui les conditions climatiques sont bien meilleures qu'hier, il fait beaucoup moins chaud et pas froid non plus, avec un tout petit peu de pluie pour
rafraîchir
tout ça, pour rafraîchir les conditions idéales pour Romain Bardet a priori.
Oui, s'il n'aime pas la chaleur, effectivement, il a des conditions aujourd'hui de température idéale pour lui, et ça semble d'ailleurs bien marcher. Ça semble également très bien marcher pour Thibaut Pinot, puisque les deux hommes sont tout simplement en ce moment en tête du peloton, alors que nous approchons du sommet bien sûr pour le peloton. Et puis il a encore des équipiers, puisqu'il me semble que Jansson est encore là. Oui. On a vu
En
queue de groupe, mais Jean-Christophe Perrault est également là. Pour l'instant, les Français sont très présents dans ce groupe.
Et pour répondre à la question posée par un auditeur tout à l'heure, Pierre Roland est toujours là, calé cette fois dans la roue du champion du monde Rui Costa, à ses côtés Arnold Jansson, Jürgen Vandenbroek, on aperçoit Van Garderen également, et puis Brice Feillu est en train de s'accrocher, tandis que Michael Schérel, qui il y a quelques instants imprimait encore l'allure à l'avant de ce groupe maillot jaune pour son équipier Romain Bardet, est en train de décrocher un groupe maillot jaune à nouveau conduit par les Astana. Jakob Fuglsang, qui était tombé hier dans la descente du col précédant la montée vers Champs-Rousses, a apparemment récupéré de sa chute, genou gauche bandé. Il est en train d'emmener dans sa roue le maillot jaune Vincenzo Nibali.
Et Tony Galopin est encore là.
Tony Galopin, effectivement,
il s'est refait une santé.
Deux jours difficiles où il a dû digérer tout ce qui s'est passé pour lui.
Et puis la bronchite,
Tour de France, et la bronchite en plus qu'il ne l'a pas arrangé. Eh bien Tony Galopin est là. Est-ce que c'est une surprise pour toi, Cyril, de le retrouver dans le peloton des costauds alors qu'on arrive au sommet de l'Izoard?
Oui, c'est une surprise pour deux raisons. D'abord parce qu'il n'était pas très bien depuis deux jours, et ça s'est vu, mais il s'est peut-être fait là-bas dans l'autobus, hein, vous savez, dans le groupe Eto. C'est une surprise à un deuxième niveau, c'est que les efforts qu'il fait là sont peut-être inutiles, parce que je ne pense pas qu'il passera la dernière ascension, mais qu'il aurait peut-être été préférable qu'il fasse une étape de plus de repos, on va dire, avec Kittel, avec De Gendt-Kolb, avec Kraepel dans le groupe Eto.
Mais peut-être a-t-il envie de se tester pour les années à venir, pour savoir s'il est capable. Non, on n'a pas le droit de se tester, ça sert strictement à rien.
Là, d'accord, je suis désolé. Okay. On se teste.
Je sais le panache et le test, ça sert à rien. Ouais.
Non, mais c'est pas là où on teste. Hein.
Non, mais c'est bien aussi en course de voir les conditions.
Mais il n'a pas besoin de ça. Attendez, on parle pas de la même chose, Christophe. Là, il se récupère. À la limite, il pouvait faire une très belle étape dans les Pyrénées et peut-être essayer d'aller chercher une gagne dans les Pyrénées. Là, il va revider les réservoirs. Alors qu'il a aucune chance d'aller gagner l'étape. On n'a pas besoin de se tester. Ouais. Attendez, il a 26 ans. Mmh. Des grands cols, il en a déjà monté. On n'a pas besoin de se tester. On sent tout de suite si on a les jambes ou si on les a pas.
Le réalisme froid du druide.
Eh ben oui, mais je suis désolé. J'ai fait gagner 13 grands tours de France, donc c'est pas par hasard non plus.
Candide face au druide, c'est un régal de vous entendre, messieurs. Le groupe maillot jaune a basculé avec
Et le donneur de leçons en face. Vous avez entendu là?
Candide et le druide. Allez, vas-y. Aucune leçon. 3 minutes de retard pour le groupe maillot jaune, composé de 25 coureurs environ. Et surprise à observer, c'est bien Thibaut Pinot qui a emmené ce groupe maillot jaune dans les derniers hectomètres et qui est passé en tête de ce groupe Nibali. Pourquoi? Et bien simplement pour faire la descente en tête. C'est un scénario qui se répète quasiment dans toutes les grandes ascensions. Thibaut Pinot qui effectue la montée dans les toutes premières positions avant de prendre une ou deux longueurs d'avance au sommet pour anticiper la descente. Lui qui a connu des désillusions dans les descentes, notamment l'an passé dans les Pyrénées sur le dernier Tour de France. Cette fois, Thibaut Pinot a clairement adopté cette stratégie de mettre...
Il descend d'ailleurs en
exactement.
Tête et pour l'instant il est à la case désert. Alors là, elle va être facile pour les coureurs. Dans l'autre sens, je peux vous dire qu'à cet endroit-là, c'est horrible,
c'est horrible.
Lorsqu'il fait très chaud.
Exactement. Nous sommes sur la Lune, dans la case déserte, cette descente de l'Izoard. 40 km de l'arrivée, 2 minutes 53 d'avance pour les hommes de tête. On va se retrouver dans quelques instants pour le final de cette étape, alors que Lucho est arrivé avec les valises bien remplies. Tout de suite sur RMC.
RMC, jusqu'à 18h, Intégral Tour. Jusqu'à 18h, Intégral Tour, Christophe Cessieux.
À 35 km 800 de l'arrivée, toujours un groupe de tête avec 2 minutes 28 d'avance, mais dans le peloton, certains ont décidé de faire la course et la descente à bloc, Fred.
Ah oui, on est dans la descente de l'Izoard, col hors catégorie, col mythique du Tour. On est passé à la case déserte, il y avait un magnifique paysage à observer, mais il y en a qui ont décidé de faire la course plutôt que de regarder le paysage. Ce sont les coureurs français. Thibaut Pinot avait basculé à l'Izoard en tête du groupe maillot jaune avec Vincenzo Nibali et Jakob Fuglsang dans sa roue. Eh bien, il a été relayé à l'avant de ce groupe maillot jaune dans la descente par le duo AG2R La Mondiale. Jean-Christophe Perrault, le vétéran de 37 ans, emmène dans sa roue le maillot blanc Romain Bardet, 23 ans. Ils sont en train de fausser compagnie au groupe maillot jaune. Ils sont en train d'emmener dans leur roue uniquement Jakob Fuglsang et Vincenzo Nibali. 4 hommes sont en train de se détacher. Et ça se fait vraiment sur les trajectoires, sur l'audace. La course est en train de se faire dans la descente, Cyril. C'est aussi ça, la course cycliste. On est à 34 km de l'arrivée.
Oui, les grands tours se gagnent aussi dans les descentes. Regardez le Tour d'Italie avec Quintana, qui avait permis d'ailleurs à Roland de revenir en quatrième position et terminer d'ailleurs quatrième du Tour d'Italie. Eh bien, la bagarre est partie dans la descente. Une descente que les deux hommes, Bardet et Thibaut, connaissent bien. Ils l'ont reconnu, mais ils l'ont déjà passé en compétition à plusieurs reprises, et donc ils ont lâché les chevaux dans cette descente. Et pour l'instant, il n'y a plus de peloton. 4 hommes en tête, puisque Nibali, ce n'est pas une surprise, c'est un grand descendeur, revient, et que derrière, Thibaut Pinot est en train de revenir. Alors non, dans le premier qui est en train de revenir, c'est Valverde, qui est aussi un grand descendeur, et à beaucoup à une 150 mètres, nous trouvons Thibaut Pinot qui se bat avec cette descente, mais qui se bat bien parce qu'il limite quand même très bien la casse. Et de toute façon, il va, je pense, retrouver des équipiers.
Ouais. Thibaut Pinot, Cyril, dont on rappelle que l'année dernière, il était complètement à la rue dans les descentes et qu'il s'est entraîné tout au long de l'hiver pour essayer de retrouver une bonne descente. Quoi. C'est très important.
Ah, mais il a bien progressé, parce que si ça avait été l'an dernier, il serait une 30 déjà.
Et oui. Et donc, est-ce que Romain Bardet a pas voulu tester Thibaut Pinot aussi dans cette descente, Cyril?
Ça n'est pas impossible. Ben, c'est normal, hein, ils sont tous les deux à la lutte pour aller chercher. chercher une place sur le podium de ce Tour de France, eh bien la lutte, elle existe et elle est partie.
Et oui, et attention, il va falloir que Thibaut Pinot accélère peut-être encore un peu plus s'il veut rattraper ce groupe, on le rappelle, composé de Romain Bardet, de Jean-Christophe Perrault, de Nibali, de Fulsang et de Valverde. Tous les costauds sont là, Fred.
Oh oui, effectivement, la course est en train de se jouer avant même la montée vers Risoul. Romain Bardet qui est en train de mettre la main à l'émetteur sous son maillot blanc de meilleur jeune. Il est en train de parler à la voiture de son directeur sportif. Il réagit, son oreillette. Il y a une tactique qui a été mise en place. Clairement, on a vu dans le final de l'Izoard, Romain Bardet demander à son équipier Michael Chérel de faire le haut de l'ascension. Ensuite, Jean-Christophe Perrault a pris le relais de Chérel pour la descente. Tout cela est très stratégique. Perrault, un excellent descendeur, lui qui vient du VTT, un acrobate au service de Bardet aujourd'hui.
Une bonne nouvelle, il va rentrer Thibaut.
Eh oui, Thibaut Pinot qui a fait d'énormes progrès en descente, on a pu s'en apercevoir. Luc nous a rejoint après son escale et son étape Genepi. Luc, tu as évidemment descendu à plusieurs reprises.
Bien sûr, je l'ai fait au Dauphiné, au
c'est
Tour.
C'est une descente difficile.
C'est une descente, non, elle n'est pas très technique, la descente peut-être au début, mais après dans le final, ça, tous les virages se prennent très très bien, sans freiner. Il y a quand même un petit vent de face, trois quarts face, qui n'est pas négligeable non plus. Thibaut Pinot va certainement rentrer, ça c'est indéniable, mais attention Cyril, pourquoi ? Parce qu'il y a quand même du vent, trois quarts face, et s'ils prennent un petit peu plus d'avance, le groupe Bardet-Perrault, ça risque d'être difficile si Thibaut Pinot n'a pas de renfort et s'il reste seul, ça va être très très dur de rentrer sur le groupe Bardet.
Il rentre tout de suite dans ce faux plat.
Ah ouais, là il faut qu'il rentre de suite. Ouais.
Et Bardet qui se retourne, qui veut voir s'il a fait des dégâts et si Thibaut Pinot a réussi à s'accrocher, Fred.
Ça se retourne, ça se retourne.
Et Romain Bardet qui prend le relais de Jean-Christophe Perrault, Romain Bardet qui en met une dans Pinot un faux plat montant pendant que Pinot réintègre ce groupe. On a là donc Bardet, Mollema, Perrault, Fulsang, Nibali, Valverde, Van Garderen est là également. Et puis on trouve Scarponi, un autre équipier de Nibali chez Astana. Et donc Thibaut Pinot qui est le dernier à réintégrer ce groupe. Un groupe maillot jaune qui a littéralement explosé dans la descente, dans la traversée de Brunissart, puis vers Arieux, vers Arvieux. On est dans la en direction des gorges du Guil avant cette montée finale vers Risoul. On rappelle qu'il y a toujours 10 hommes en tête avec 2 minutes d'avance.
Et c'est un scénario incroyable. On ne s'attendait certainement pas à un tel scénario, Cyril. On pensait que les hommes forts de ce peloton allaient attaquer dans la montée de l'Izoard ou plus vraisemblablement dans celle de Risoul. Or là, c'est dans la descente que l'attaque, la première attaque s'est faite.
Et oui, il faut s'attendre à tout. Une course, ça vit et ça ne vit pas obligatoirement où nous, on a envie qu'elle vive. Elle vit là où les coureurs ont des points de repère pour pouvoir passer à l'offensive. Et ça a été le cas. Et pour l'instant, eh bien, Perrault a lancé la bagarre dans cette descente. Ça a créé d'énormes dégâts. Je ne suis pas certain que tous les autres favoris reviennent avant le pied de l'ascension de Risoul.
Alors que Nibali a quand même encore deux équipiers avec lui, Fred. Et c'est important en vue de la montée vers Risoul tout à l'heure.
Oui, Scarponi, l'Italien, et Fulsang, le Danois, semble-t-il. Nibali qui fait preuve d'une grande maîtrise. C'est l'un des meilleurs descendeurs du peloton, l'un des meilleurs grimpeurs également, l'un des plus à l'aise sur son vélo. On l'a vu dans la traversée d'Arvieux il y a quelques instants, passer de la gauche à la droite, puis de la droite à la gauche de la route, en sautant les deux roues en même temps, en sautant, vous savez, une rigole, un caniveau au milieu de la chaussée. Nibali qui est un artiste du vélo, pas seulement un coureur puissant ou véloce en montagne. Il nous charme, Vincenzo Nibali, sur ce Tour de France, même si on regrette évidemment l'absence de Froome et de Contador. Jean-Christophe Perrault vient de reprendre la tête de ce groupe maillot jaune pour mettre à nouveau en difficulté Thibaut Pinot qui montre de nouvelles limites. Thibaut Pinot qui vient de perdre une vingtaine de mètres à nouveau sur ce groupe.
Il est seul, Thibaut Pinot qui est obligé d'accélérer, de se relancer dans les lignes droites parce que dans les virages c'est un peu plus compliqué. Lucho, toi qui étais un piètre descendeur, ça te rappelle ton époque?
Enfin, moi je descendais un petit peu comme Thibaut Pinot au début de ma carrière. Mais j'ai vachement progressé. D'ailleurs, Sylvie peut le confirmer parce que bon, j'ai quand même fait des places au classement général du Tour. Et de toute façon, quand tu arrives au sommet en tête avec un groupe, tu es obligé de savoir bien descendre après et de faire des progrès. Alors là, Thibaut, le problème de Thibaut, là, c'est qu'il se retrouve tout seul. S'il y a encore un peu plus d'écart entre le groupe maillot jaune et Thibaut tout seul avec le vent trois quarts face, ça va être hyper dur. Il va falloir une petite montée pour que Thibaut puisse revenir sur le groupe maillot jaune.
Et on se demandait si les AG2R, la mondiale, allaient faire une course d'équipe. Eh bien, on en a la preuve aujourd'hui puisque Perrault et Bardet se relaient parfaitement en tête de ce groupe et tentent de mettre à mal Thibaut Pinot. La grande bagarre entre les Français a commencé, Cyril.
Entre Bardet et Pinot. Oui, elle a commencé, elle est logique, elle est normale, elle est sportive.
rapide, ça fait partie de la course, mais il va revenir. Le seul problème, c'est qu'il va rentrer de toute façon. Il va rentrer parce qu'on
mais
va reprendre les grilles.
Il grille des forces, Cyril.
Mais là, et tout simplement, pour l'instant, qu'est-ce qu'il fait? Les autres sont à 8 litres au 100, lui, il est à 15 litres. Et dans la dernière montée, il risque de payer les efforts qu'il fait actuellement.
Alors pourquoi fait-il plus d'efforts que les autres, Cyril?
Parce qu'il est dans le vent, le vélo, c'est de la voile, c'est pas que de la voiture.
C'était une simple question, ne vous énervez pas.
Il est toujours dans le vent par rapport à Romain Bardet, il est toujours dans le vent. Et les autres, ils sont en roue, ils prennent des relais, c'est pas trop d'efforts. Et Thibaut est en train de faire des efforts maximales derrière eux pour rentrer. Il fait l'accordéon, et à force de faire l'accordéon, quand il va se retrouver au pied de Rizoul, même peut-être avec le groupe maillot jaune, toutes les forces qu'il a données dans la descente de l'Izoard, il va peut-être le payer sur le final dans Rizoul.
Et voilà une tactique de course bien réfléchie de la part des managers et des directeurs sportifs d'AG2R.
Il le savait, il le savait.
Oui, mais vous savez, hier, comme je le disais tout à l'heure, hier, il y avait une carburation qui était excellente pour Thibaut Pinot, un peu moins pour Bardet, et encore, j'ai envie de dire, encore un peu moins pour Jean-Christophe Perrault. Eh bien, aujourd'hui, les trois hommes sont pratiquement au même niveau, sauf que dans la descente, il y a eu cette violente attaque des coureurs d'AG2R. Très belle attaque, c'est intelligence qu'ils ont fait.
Voilà, intelligence de course, intelligence stratégique de la part de la formation AG2R, la mondiale. On verra tout à l'heure si Thibaut Pinot, eh bien, paie ses efforts dans la montée vers Rizoul. En tous les cas, on va rappeler la composition de ce groupe. Il y a là tous les cadors de ce Tour de France, Fred.
Avec à 27 km de l'arrivée, toujours Jean-Christophe Perrault qui visse le long du Guil, dans les gorges du Guil, en direction de Guillestre, qui marque le début de l'ascension finale vers Rizoul. Effectivement, les AG2R ont déclaré la guerre à Thibaut Pinot. Ils veulent lui faire la peau. Ils veulent lui faire la peau en le mettant en difficulté. Thibaut Pinot qui est en dernière position de ce groupe de contre-attaque. On rappelle qu'il y a un groupe de 11 coureurs à l'avant avec 1 minute 45 d'avance sur ce groupe. Dans ce groupe de tête, il y a les deux Sky, Nivet et Thomas, le maillot à pois Joaquin Rodriguez, un Français Amaël Moinard, et dans le groupe maillot jaune, on a là Nibali, Fulsang et Kangert, les trois Astana, Perrault et Bardet pour AG2R, Van Garderen l'Américain, Mollema le Hollandais, Nicolas Roche, Valverde l'Espagnol, Nibali on l'a dit, et donc Thibaut Pinot, il y en a un qui a pété, c'est le Belge Van den Broek.
Allez, on va retrouver justement la tête de course avec Georges Quilenot qui se trouve à l'avant avec le groupe qui possède une 47 d'avance sur le groupe maillot jaune.
Oui, le groupe de 11, on est dans les gorges là actuellement. On a fini avec le gros de la descente, ils sont 11, puisque Nicolas Aidé, le coureur de la formation Cofidis, qui avait été lâché dans les derniers hectomètres de l'ascension, a réussi à rentrer dans la descente. Il y a donc deux Français dans ce groupe de tête, Aidé et Amaël Moinard de la formation BMC. Le groupe de tête en file indienne est toujours emmené par eh bien, on a vu les Sky notamment, avec Geraint Thomas qui a fait un gros travail tout à l'heure dans l'ascension de l'Izoard. Les Sky qui sont deux avec Nivet également, on voit Machka également de la Team Saxo présent dans ce groupe. Ils appellent leur voiture, le directeur sportif, pour récupérer les vidéos, pour reprendre des forces. Mais quelle est rapide cette descente, vous en parliez, on était parfois à plus de 90 km/h. Ces gens là sont des fous dans la descente, c'est parfois difficile de les suivre. On avait vu les derniers, les premiers lancés qui étaient vraiment sur une chaussée étroite où la moindre faute de trajectoire peut vous emmener dans le vide. Les hommes de tête qui passent à l'instant même sous la banderole indiquant les 25 derniers kilomètres.
C'est les fous ces gens là nous disent c'est Georges il y a quelques instants sur la moto RMC. C'est vrai qu'on se fait des frayeurs quand on suit les coureurs du Tour de France à toute vitesse dans la descente de l'Izoard, longue descente, et puis ensuite il y aura quelques kilomètres de plat, pas beaucoup, puis la montée finale vers Rizoul, 25 km encore à parcourir avant l'arrivée de cette 14e étape du Tour de France. À tout de suite
sur les routes du Tour avec ERDF. ERDF et l'électricité vient à vous. Retrouvez tout RMC sur rmc.fr.
Voilà, 25 km, un peu moins maintenant, toujours la même situation avec un groupe de tête qui ne possède plus qu'une minute 47 d'avance sur tous les cadors du peloton, toujours emmené par les équipiers de la formation AG2R, en tous les cas les deux leaders de la formation, en l'occurrence Jean-Christophe Perrault qui emmène Romain Bardet, le porteur du maillot blanc, classé troisième ce matin au général. Des questions, des interrogations également sur le hashtag RMC Live. Victor Voinkel qui nous dit c'est quand même fou ces problèmes en descente de Pinot, tous les ans c'est la même. Est-ce que c'est vraiment la même, Cyril, par rapport à l'an dernier?
Non, c'est le jour et la nuit. c'est le jour et la nuit. Ce qu'il a fait là doit le remettre en confiance et il va continuer à progresser. Non, non, on n'est pas du tout dans le même film. L'an dernier, c'était un film d'horreur. Là, on n'est pas dans un film de fiction. On est dans la réalité et il est dans le coup. Alors, il est dans le coup, oui, avec quelques petites carences encore, mais pratiquement, sauf peut-être si c'était sur du mouillé, mais sur du sec, il est quand même au niveau, quoi.
Oui, Thibaut Pinot qui fait partie du groupe Maillot Jaune, où l'on ne trouve pas Van Garderen, Romain Bardet et Jean-Christophe Perrault sont en train de rouler avec Christophe Riblon qui faisait partie de l'échappée matinale. Christophe Riblon qui est en train de vider le réservoir le long du Guil pour permettre à Romain Bardet de creuser sur Van Garderen, sur Frank Schleck et sur d'autres coureurs qui sont attardés. Mais Van Garderen a eu du renfort à l'arrière. Les coureurs de l'équipe américaine BMC qui sont en train de ramener leur leader au classement général qui est cinquième derrière Bardet et Pinot. Ce groupe est en train de revenir avec notamment Pierre Roland, avec Tony Galopin dans quelques instants. On va à nouveau avoir un groupe maillot jaune fort de 25 unités qui pointe désormais à 1 minute 45 du groupe de tête. On est à 23 km de l'arrivée.
23 km de l'arrivée, regroupement donc dans ce groupe maillot jaune, mais les efforts énormes vont sans doute se payer dans la montée vers Rizzo.
Tout se paye, tout s'additionne, rien ne se soustrait.
Appelez RMC au 32-16, 34 centimes la minute, plus coût éventuel selon opérateur. RMC, intégral tour. Christophe Cessieux.
21 km de l'arrivée de cette 14e étape du Tour de France qui s'achèvera dans quelques minutes à Risoul. Encore une difficulté à franchir, ce sera justement cette ascension vers Risoul. Le Lautaret et l'Isoard ont donc été avalés par les hommes de tête et par le groupe maillot jaune. Et on a assisté donc Fred à une énorme bagarre dans la descente de l'Isoard. Une bagarre qui n'a pas fait comme ça de gros dégâts, mais les dégâts pourraient se payer dans quelques minutes dans la montée vers Risoul.
Ah oui, une bagarre emmenée par l'équipe AG G2R déclenché par la formation AG2R La Mondiale avec Jean-Christophe Perrault qui a filé un gros coup de main à son maillot blanc de coéquipier Romain Bardet. Ils ont fait la descente, les deux coureurs de l'équipe AG2R La Mondiale, pour emmener dans leur roue uniquement dans un premier temps Fulsang et Nibali, les deux coureurs de l'équipe Astana, et cela a provoqué une cassure avec un Thibaut Pinot qui a dû chasser. On est rentré dans les gorges du Guil et il y a regroupement. Pinot qui ne souffre pas de ce mal des descentes qu'il avait tellement handicapé l'an passé. Désormais, c'est un groupe d'une petite trentaine d'unités qui compose le groupe maillot jaune. Rappelons qu'à 20 km de l'arrivée, il y a toujours 11 coureurs échappés, rescapés de la grande fuite en avant du jour, avec notamment les deux Sky, Nieve et Thomas. Il y a là le maillot à poids Joaquin Rodriguez et puis les Français Moinard et Hédé. C'est le calme peut-être avant la tempête, avec le passage sous la banderole des 20 km. Derrière, dans le groupe maillot jaune, on a récupéré des équipiers.
Cyril, on a vu tout à l'heure donc Jean-Christophe Perrault faire la descente à bloc, et c'est lui qui assurait la plupart des relais. Romain Bardet l'a relayé à un moment, mais assez peu finalement dans cette descente. Est-ce que Jean-Christophe Perrault ne risque-t-il pas de payer ses efforts tout à l'heure dans la montée? On rappelle que lui aussi est placé au général et qu'il a de belles ambitions, hein.
Oui, mais tout le monde a fait les mêmes efforts. Lui, il les faisait en tête. Bardet était un peu dans l'aspiration, mais si vous prenez Thibaut Pinot, il faisait les mêmes. Valverde a fait un gros effort pour revenir. Rappelez-vous, au début de la descente, il y avait deux hommes en tête, Jean-Christophe Perrault et Bardet. Il y avait une cinquantaine de mètres un équipier de Nibali, Fuglsang. Nibali lui-même était pratiquement à une 30 ou 40 mètres, c'est-à-dire que tout le monde était dans le vent, tout le monde faisait les mêmes efforts dans cette descente. Et c'est l'avantage d'une attaque en descente, c'est que vous ne pouvez pas être dans l'abri puisque vous avez un virage serré à droite, une courbe à gauche. Vous n'êtes pas véritablement dans l'abri, sauf si c'est votre équipier qui a confiance en vous et qui va virer à 1 mètre 50 seulement. Derrière, tout le monde était dans le vent. Donc Jean-Christophe Perrault n'a pas fait plus d'efforts que les autres. Celui qui a à la limite fait le moins d'efforts, parce qu'il bénéficiait de l'abri de Jean-Christophe, c'est Romain Bardet.
Ouais.
Donc et derrière, il a fallu faire la poursuite, attendre des équipiers pour ramener Van Garderen, pour ramener Van den Broek. Bokeh Mollema, il est rentré tout seul aussi sur la tête. Donc tout le monde s'est mis à plat ventre dans cette descente. Donc là, j'ai presque envie de dire, à part Thibaut Pinot qui a été obligé de faire un effort tout seul lorsqu'il y a eu le fond plat et qu'il s'est fait ressortir, qui a peut-être fait un peu plus d'efforts que les autres sont pratiquement au même niveau.
Alors Cyril, pour les Cyril Lucho, tiens, je vais poser la question à Lucho parce qu'il n'a pas beaucoup parlé jusqu'à présent. Lucho, est-ce que les efforts sont de la même intensité lorsqu'on attaque en descente que lorsqu'on attaque en montée? Est-ce qu'on met le cœur au même niveau ou c'est vraiment beaucoup plus bas?
Bah, je dirais à peu près que c'est le même niveau parce qu'il y a autant de, c'est plus haut. Pourquoi? C'est au niveau du stress. Parce que quand un coureur comme Thibaut Pinot ne sait pas descendre, il a beaucoup plus de stress. Il essaie de se concentrer beaucoup plus que les autres parce qu'il sait qu'il est moins bon descendeur que les autres. Et au niveau de l'effort, c'est bien sûr, c'est moins violent. C'est moins violent. Mais c'est la technique, quoi. C'est la technique et le stress. Et c'est vrai qu'avec le stress, on bouffe beaucoup plus d'énergie que dans une montée. Voilà. Mmh. Et quand on bouffe beaucoup d'énergie dans une descente, quand on sait qu'on n'est pas au même niveau que les autres, eh bien, automatiquement, avec le stress que tu as pu dégager dans la descente, automatiquement, tu peux le payer cash dans le final de Risoul.
Cyril, en montée, les coureurs sont tous à leur fréquence cardiaque maximale. Est-ce que
ça dépend de l'intensité.
Oui, non, mais par exemple, dans une attaque ou dans les derniers kilomètres d'un col.
Si ça monte à fond, ils sont au même niveau que sur un contre-la-montre, c'est-à-dire à leur seuil.
Sur
la montée, une montée de col, c'est la même chose.
Et en descente, Cyril,
Lucho a raison, on est sur les mêmes fréquences, mais elles n'ont pas la même origine. Ouais. C'est-à-dire que dans une descente, dans chaque virage, vous arrêtez de produire de l'énergie. Mm-hmm. Vous avez la relance derrière, donc dans toutes ces portions où vous ne pédalez pas, vous avez une forme de récupération. Et vous allez récupérer, effectivement, sur le plan, on va dire, des fibres musculaires des jambes, mais vous avez une telle attention pour piloter votre vélo que votre fréquence cardiaque ne va pas baisser.
Très bien, voilà une bonne explication. Oui. Merci messieurs d'avoir éclairé nos lanternes. Ils sont bons quand même, nos consultants.
Ah oui, on parlait de Thibaut Pinot qui a su se refaire d'une année sur l'autre. Il a eu des heures difficiles et aujourd'hui en descente, il se balade. On a également aujourd'hui du grand Guimard cet après-midi. Après l'avoir vu un peu buté ce matin, il y a eu footing avorté, hein, il faut le dire. Et puis il a réussi à se refaire la cerise, comme disent les coureurs. C'est admirable. Ses facultés de récupération qu'on sait champion.
Luc
est un très bel exemple également. Les raisins à l'eau de vie semblent un excellent carburant.
Non, mais attention, je fais de la simulation aussi. Voudrais dire aux auditeurs et je voudrais dire à tous mes amis auditeurs
dans le camion du début du tour, c'est pas de la simulation.
Je voudrais tous leur dire, n'écoutez pas tout ce qui se dit sur RMC. Je suis quelqu'un de sobre et pour mon âge, je me porte très bien.
Ça, c'est pour la gendarmerie que tu dis ça.
Non, bien du tout. C'est un peu de simulation.
Mais comme il n'a plus la Lucho mobile, il est devenu.
Mais voilà, mais ça
invisible.
Fait partie de notre terroir et ce que j'ai vécu cet après-midi, des gens formidables et tout, à 9-10 km de la. D'ailleurs, on va les voir tout à l'heure.
Je pourrais rectifier quelque chose.
Oui, c'est vrai.
Non, parce que Lucho dit, n'écoutez surtout pas ce qu'il se dit sur RMC. Non, n'écoutez surtout pas ce que dit Lucho.
Non.
Nous, on dit, nous, on fait de la formation.
En tout cas, je vais faire mon footing et je suis affûté comme jamais je l'ai été. Ah, voilà. Et alors, pour en revenir à Thibaut Pinot.
Énervement.
Pour en revenir à Thibaut Pinot, on va revenir sur la course. Simplement vous dire une chose. Heureusement qu'aujourd'hui c'est sec. Heureusement qu'il ne pleut pas.
Oui, c'est vrai.
Parce que Thibaut, il avait quand même une cinquantaine de mètres de retard sur le groupe maillot jaune. Mais avec la pluie, qu'est-ce qui se serait passé?
Eh bien, il n'y avait pas de pluie, nous ne le saurons jamais.
Voilà, mais attendons les Pyrénées. Attendons les Pyrénées, il faut faire très attention.
Oui, les Pyrénées qui s'annoncent moyenne. Ce sera à partir de mardi. Allez, nous sommes à 16 km de l'arrivée dans quelques instants. Les premières pentes de l'ascension vers Risoul. On se quitte quelques instants. On va avancer les infos pour ne rien rater de l'ascension finale de cette 14e étape du Tour de France. La grande bagarre, peut-être dans quelques minutes.
RMC Intégral Tour.